chapitre 14. Et pendant que notre sœur Élie se prépare à nous faire la lecture, je voulais vous mentionner aussi deux petites choses, deux encouragements vraiment. Tout d'abord, pendant la période des cours bibliques, vous savez qu'il y a des groupes pour différents âges, les enfants, tout ça, et on a un groupe pour les 12-16 ans. Et c'est Camille Rondeau avec quelques personnes de l'Église qui s'occupent de ce groupe. Donc, de 9h à 10h, on a plus de 25 jeunes de 12 à 16 ans qui sont là ensemble pour étudier la parole de Dieu puis discuter d'un sujet qui va les concerner dans les années qui s'en viennent, sur les fréquentations, tout ça. Mais je suis vraiment encouragé de voir leur participation et la joie d'être comme ça, 25 jeunes de 12 à 16 ans qui se retrouvent pour discuter puis se mettre au défi de marcher avec Dieu. Et dans la même optique, il y a une initiative qui a commencé tout dernièrement, un ralliement dans la région du Grand Montréal. Je pense qu'Élie me disait qu'il y avait 8 églises qui sont impliquées. Ça concerne les 18 à 35 ans. Ils appellent ça Momentum Ralliement Jeunesse, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont eu hier soir leur deuxième rencontre. Et ils étaient 290 jeunes qui étaient rassemblés ensemble de 18 à 35 ans. On voit souvent ça avec des groupes un peu plus jeunes, mais 18-35 ans est vraiment un moment béni où ils sont mis au défi avec la parole de Dieu de consacrer leur vie, d'avancer, de grandir en maturité. Et donc, je me réjouis de ça. Je pense que le prochain, c'est le 24 novembre. Alors, pour ceux de l'Assemblée qui avaient entre 18 et 35 ans et qui manquaient ces moments-là, c'est des moments précieux de se retrouver puis de se lancer le défi de grandir, d'avancer, d'approfondir notre communion avec Dieu, notre témoignage. Ce sont des moments bénis, des moments qui font une différence à travers l'année, à travers les années qui suivent. Et je voulais simplement le mentionner parce que vraiment, c'est un encouragement pour moi. Alors, on va écouter la parole de Dieu et Élie va nous lire Actes 14, les versets 1 à 20. Écoutons ensemble la parole de Dieu.
À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à l'Istre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Annoncèrent la bonne nouvelle. Dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule
on va prier ensemble. Eh bien, Père éternel, je veux t'en rendre grâce pour ta parole, pour tes saintes écritures, Seigneur. Pour ces récits merveilleux qui nous sont faits des premiers pas qu'a fait l'Évangile pour établir des églises dans toute cette région, dans cette grande région, Seigneur. Je veux te rendre grâce pour le courage d'hommes comme Paul et Barnabas et tous ses coéquipiers et tous les chrétiens, Seigneur, qui depuis cette époque sont allés au-devant d'autres personnes pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Père, tu nous as placés ici au Québec dans un contexte particulier, dans un temps bien précis où la pensée est différente et l'approche avec l'Évangile n'est pas toujours simple et évidente, Seigneur, parce que les gens n'ont pas de référence et se sont conçus des dieux tels qu'ils leur semblaient bons, Seigneur. Viens nous instruire par ce passage et viens nous donner du zèle, Seigneur, pour prêcher Christ. Sois avec moi, Père, soit avec mes paroles, soit avec mon cœur. Que nous puissions être bénis ensemble dans ta parole, notre Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Par où je commence? Ça vous arrive, ça, lorsque vous parlez avec des gens, puis vous voulez comme une occasion, oups, vous voyez une petite porte, quelque chose, vous voudriez parler du Seigneur avec quelqu'un, un collègue de travail, des amis, puis vous dites, mais par où je commence? On est dans une époque particulière, dans un contexte particulier, ce qui est vrai de toutes les époques et de tous les contextes, mais dans le nôtre, disons que la pensée, les rites, la vision du monde a évolué rapidement, s'est transformé, s'est bousculé en Occident à travers les deux derniers siècles d'une manière extrêmement rapide. Et lorsque nous allons vers des gens pour leur partager la foi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent j'ai l'impression de ne pas avoir d'endroit où m'accrocher. Je n'ai pas de référent pour pouvoir commencer à parler de la foi. Juste pour le Québec, les choses ont changé très, très vite aussi. Alors, les premiers pionniers qui sont venus ici au Québec, on pense aux Keefe, aux Héron, aux Beaux, allaient aux portes dans un contexte où les Québécois étaient en train de sortir de l'Église catholique en bonne partie. Et donc, il y avait plein de référents. Les gens avaient une connaissance biblique, avaient une connaissance, non pas juste surtout, mais avaient une connaissance, il y avait des référents. On avait quelque chose pour partir, pour commencer. Il y avait une vision du bien et du mal qui se rapprochait de la vision du bien et du mal que nous présentent les Saintes Écritures. Il y avait des points de repère. On avait un point de départ. Et les choses ont changé très, très vite. Et aujourd'hui, on vient pour parler de l'Évangile. C'est très différent, remarquez, lorsque les gens viennent de l'extérieur. C'est vraiment intéressant avec la Banque alimentaire, avec Bouffe pour tous, on a découvert que parler de Dieu à la Banque alimentaire, généralement, ce n'est pas parler avec des postmodernes. C'est très, très différent. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de d'autres pays qui, pour eux, Dieu, c'est clair, Dieu est là. Mais parler avec un Québécois de souche, parler avec un étudiant à l'université au cégep, parler avec un jeune qui vient d'ici, on est ailleurs complètement. Alors, par où je commence? Et dans le passage de ce matin, je trouve qu'on a vraiment une fenêtre qui nous permet d'étudier, de regarder ce que Paul va faire ici, parce que Paul est dans un contexte complètement différent. Voyez-vous, Paul et Barnabas continuent leur voyage missionnaire et comme on l'a vu la semaine dernière, bien, dès que leur appel est terminé dans une ville, parce qu'on les chasse de la ville, on ferme les portes à l'Évangile, bien, les choses ne sont pas tellement compliquées dans leur esprit. Ils n'en font pas une affaire personnelle, comme on dit ici. Ils décident tout simplement de secouer la poussière de leurs souliers et passer au prochain appel, comme je le mentionnais la semaine dernière. Et on voit ça au début du passage ici. Ils vont arriver à Icône. À Icône, ils commencent par prêcher la parole. Au début, il n'y a pas mention même de miracle. La réponse est forte. Les gens sont ouverts à l'Évangile. Tout de suite, ça suscite de la jalousie de la part de Juifs, entre autres, qui font des drôles d'allégeances avec des idolâtres, des gens qui ne sont pas du tout de la même croyance qu'eux, mais ensemble, ils vont s'opposer à Paul et Barnabas. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, ils passent au prochain appel, d'accord? Et je crois que ça, c'est un des messages importants que nous devons tirer pratique pour notre propre vie. Je l'ai mentionné la semaine dernière. J'annonce l'Évangile et comme Paul le dit avec beaucoup, beaucoup d'ironie dans le passage de la semaine dernière au chapitre 13, Si j'annonce l'Évangile et la personne à qui je m'adresse ne se juge pas digne de la vie éternelle, c'est assez ironique, merci, n'est-ce pas? Si cette personne ne se juge pas digne d'entendre l'Évangile, c'est correct, je vais passer au prochain appel. C'est tout. Et je ne vais pas m'arrêter là, je ne vais pas me décourager. Maintenant, si ce sont mes proches, des gens que j'aime, des gens avec qui je reste en contact, des collègues de travail, je vais les garder dans la prière. Je vais continuer à entretenir la relation avec eux. Ce n'est pas que je ne vais plus leur parler du tout. Mais je ne vais pas être débouté par cette situation. Je vais tout simplement aller annoncer l'Évangile à la prochaine personne qui est sur mon chemin. Et c'est une des leçons qu'on a tirées de Paul et de Barnabas ici. C'est ce qu'ils font. Alors, ils s'en vont ailleurs et ils vont se retrouver à Lystre. Et si ce n'est pas évident pour vous simplement dans l'exposé ce matin, je vous invite cette semaine à prendre le temps de relire simplement Acte 13 et Acte 14 pour faire la comparaison, pour pouvoir être en mesure de faire la comparaison entre l'approche que Paul prend lorsqu'il est dans un contexte où il y a des a priori, des connaissances, une culture biblique. Il rentre dans une synagogue, on s'entend? Il rentre dans une synagogue et puis il commence à annoncer l'Évangile à des Juifs. L'approche est complètement différente avec le passage de ce matin où il va annoncer l'Évangile à des païens. Et lorsque j'emploie le terme païen, ce n'est pas dans un sens péjoratif ou méprisant, mais on est en train de parler de gens qui n'ont pas de culture biblique, qui ne connaissent pas le Dieu de l'Ancien Testament du tout. Au contraire, qui ont prêté allégeance à toutes sortes de dieux, toutes sortes d'idoles, toutes sortes de pensées. Ce n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Et on voit Paul, dans ce contexte-là, prendre une approche qui va être différente. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans le passage ici. Je prends le temps juste de le noter. Lorsque Paul arrive dans la ville, il y a cet homme impotent et Paul va faire un miracle, comme il y en a plein de miracles dans le livre des Actes. Mais bien souvent, quand Paul fait un miracle, quand un des apôtres, lorsqu'il y a un miracle qui se produit, cela suscite la foi, n'est-ce pas? Pas pour tout le monde. Il y en a qui vont réagir, mais on sent dans la foule, on lit dans le récit que la foi est suscitée. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici parce que le genre de foi qui est suscité par ce miracle n'est pas vraiment ce que Paul recherchait. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez fait le miracle, ces gens-là disent « Wow, les dieux sont descendus du ciel » et ils commencent à vouloir adorer Paul et Barnabas. Ce n'était pas exactement ça qu'ils attendaient comme résultat avec les miracles. Voilà pour les miracles dans ce passage-là. Et donc, ils vont devoir donner du contenu à leur message pour dire « Non, votre interprétation de cette intervention divine est complètement erronée. Vous n'avez rien compris de ce que Dieu est en train de faire ici. Arrêtez. » Ils vont déchirer leurs vêtements, eux-mêmes scandalisés de devenir des idoles. N'est-ce pas? Scandalisés par ce culte qu'on veut leur vouer. Plusieurs idoles auraient des leçons à apprendre de ça de nos jours, je pense. Et donc, il se passe ce miracle et puis ils doivent s'appliquer à clarifier les choses. Et je trouve que ce passage-là a des leçons intéressantes pour nous parce qu'on voit Paul passer d'un contexte où il annonce l'Évangile à des Juifs ou à des craignants Dieu, des sympathisants des Juifs, dans un contexte complètement païen. Ce matin, on va voir ensemble que par le passé, Dieu a laissé toutes les nations de la terre suivre leur propre voie. Mais aujourd'hui, j'entends à partir de la venue de Jésus-Christ, aujourd'hui, tous les hommes sont invités à délaisser leurs idoles pour se tourner vers le Dieu vivant qui les a tant bénis. Je répète ça. Nous allons voir que par le passé, Dieu a laissé toutes les nations de la terre suivre leur propre voie. Mais aujourd'hui, tous les hommes sont invités à délaisser leurs idoles pour se tourner vers le Dieu vivant qui les a tant bénis. Et je résumerai ça en trois points. Vous les avez dans l'inséré. Que votre voisin soit juif ou païen, annoncez-lui une bonne nouvelle. Deuxièmement, annoncez un Dieu de liberté et un Dieu qui est bon. Troisièmement, exhortez à la repentance des vaines croyances et à la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on commence le passage ici, puis en fait, lorsqu'on arrive au moment où Paul et Barnabas sont scandalisés par le fait qu'on veut commencer à leur vouer un culte, l'approche, les paroles qui sortent de la bouche de Paul sont totalement différentes de ce qui s'est passé dans Acte 13. Voyez-vous, dans Actes 13, Paul s'adresse à une foule et il présume de la connaissance d'un paquet d'affaires. Alors, il part avec l'histoire d'Israël. Il part avec l'histoire d'Israël et il leur dit, voici, regardez, ces temps, ces prophéties, ces annonces qui avaient été faites à travers votre histoire par les prophètes se sont accomplies en Jésus-Christ. Il y a un point de départ extrêmement clair et simple. En fait, je vous dirais, c'est la différence souvent qu'on va expérimenter lorsque vous êtes, admettons, moniteur dans une classe du dimanche avec des enfants qui ont un peu de culture biblique, qui ont connu les histoires, tout ça, et puis il y a une vision du monde où il y a un Dieu qui existe, tout ça, et vous vous retrouvez avec quelqu'un qui n'a aucune connaissance biblique et une autre vision du monde complètement, du genre, est-ce que le bien et le mal existent même? On va définir le bien selon ce qui nous semble bien, selon mon propre jugement à moi. Et voyez-vous, on vit nous-mêmes cette dualité-là régulièrement parce que lorsqu'on parle de l'Évangile avec des gens qui ont une culture biblique, chrétiens ou non encore, mais qui connaissent, qui fréquentent une église, oh, il y a plein d'affaires qu'on prend pour acquis, c'est simple, simple, simple. On s'en va dans l'Évangile, puis on veut exposer la beauté de l'Évangile. Puis là, on annonce l'Évangile, puis on plonge là-dedans. Mais lorsqu'on annonce l'Évangile, lorsqu'on veut se rendre là avec des gens qui n'ont pas du tout cette culture-là, on part d'un autre endroit complètement. Et c'est à ça qu'on assiste ici. Paul sait que la connaissance biblique n'est pas là. Alors, il ne commence pas par la révélation de l'Ancien Testament. Il faut comprendre qu'à l'époque, il ne pouvait pas commencer non plus par le Nouveau Testament. Vous me suivez? Il n'est pas écrit encore, d'accord? Mais il ne commence pas par la Bible, c'est ça que je veux dire. Ça va? Il va commencer par ce qu'on appelle la révélation générale, plutôt. Et ça, ça fait partie de la théologie de Paul. Il développe ça dans Romains 1, par exemple. Et dans quelques chapitres, dans Actes 17, nous allons voir Paul prendre encore la même approche à Athènes. Et nous avons à apprendre de ces choses-là. Paul prend le temps d'adapter son approche à la culture à laquelle il est en train de s'adresser. Si Paul avait prêché l'Évangile, par exemple, à un musulman, il n'aurait pas pris la même approche au point de départ. S'il avait prêché l'Évangile à un témoin de Jéhovah, il n'aurait pas pris la même approche. Il y a plein de présupposés, on connaît des références. Avec un musulman, je sais ce qu'il connaît de l'Ancien Testament, ce qu'il ne connaît pas, ce qui a été déformé aussi à travers la rédaction du Coran. Si Paul s'était adressé, par exemple, à un catholique, il aurait pu tenir compte du fait que cette personne-là est en train de s'adresser premièrement souvent à Marie plutôt qu'à Christ et qu'il y a eu une transposition de l'œuvre de Christ sur la Vierge Marie. Et donc, il prendrait ça en compte. Si Paul s'adressait à un athée, il prendrait une autre approche aussi. Parce que Paul est à l'écoute de la culture à laquelle il est en train de s'adresser et il va s'adapter à cette réalité-là. Le message de l'Évangile ne change jamais, par contre. Et ce qui est paradoxal dans ce passage-là, comme dans le passage où Paul va s'adresser aux Athéniens, c'est qu'on voit Paul, on voit où est-ce qu'il s'en va, mais il est arrêté dans son discours. Et donc, il ne se rend pas à l'Évangile. Mais je ne voudrais pas vous donner l'impression ce matin que je suis en train de dire que le message de l'Évangile change. Ce qui sauve, c'est la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, Paul ne va jamais changer le message. Je dois en venir tôt ou tard à prêcher Christ, si je veux que les gens soient sauvés. Ce qui change, c'est l'approche. Par où je commence quand je veux leur parler de Jésus-Christ? Par où je commence? Et cela me demande à moi et à vous d'écouter un peu la culture. Les gens à qui je suis en train de m'adresser. Cela me demande d'être à l'écoute lorsque je suis en train de parler avec quelqu'un pour voir à quoi il croit, qu'est-ce qu'il pense, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est faux pour lui, quelles sont ses certitudes, et d'apprendre à connaître ces différentes cultures que nous côtoyons. Je l'ai mentionné tout à l'heure, si vous parlez avec bien des immigrants qui arrivent au Québec, grand nombre d'entre eux ne sont pas des postmodernes. Et vous allez leur parler de Dieu. Des fois, vous pouvez essayer un petit « que Dieu te bénisse ». Puis, oh, vous allez voir l'écho qui revient après. Oh, OK, on est ailleurs. Ça serait ça pour le fun avec le chauffeur d'autobus tantôt. « Que Dieu te bénisse ». Ouais, j'entends si c'est un Québécois de souche. On s'entend. Alors, ça peut me demander à moi, et ça va me demander à moi d'être à l'écoute. Ça nous demande d'être à l'écoute de la culture à laquelle on s'adresse. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant que je vois dans le passage au verset 15. Au verset 15, Paul dit « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, vous apportant une bonne nouvelle. Quelle que soit la culture à laquelle je vais m'adresser, je dois partir avec l'idée que je m'en viens de toute façon leur annoncer une bonne nouvelle. » La bonne nouvelle dans ce contexte-ci, on pourrait la résumer comme « Il y a un Dieu vivant qui est beaucoup plus grand que toutes les patentes que tu as pu te composer, qui dépasse la somme de tout ce que tu peux croire. Il y a un Dieu vivant qui règne sur les cieux et sur la terre et il veut se faire connaître à toi. » Puis on est en route vers l'Évangile. Mais voyez-vous, l'apôtre Paul est convaincu quand il ouvre la bouche devant des gens qui n'ont aucune notion biblique. Il est convaincu qu'il leur annonce, qu'il leur apporte une bonne nouvelle. Le mot « évangile » vient du grec « euangelion », « bon message », c'est ça que ça veut dire. Et quelle que soit la culture à laquelle je suis en train de m'adresser, ça va toujours être une extrêmement bonne nouvelle que je m'en viens leur annoncer. Cette certitude-là, avant même que je me sois dépatouillé pour savoir par où je commence, où est-ce que je m'en vais, est-ce que ça va être bien reçu, il va partir à rire de moi quand je vais commencer à parler de miracles. Avant tout ça, c'est une bonne nouvelle que je m'en viens lui annoncer. Il y a un Dieu vivant qui existe et qui veut se révéler à toi, qui veut entrer en communion avec toi. Il a pourvu à tout le nécessaire pour devenir ton Dieu intime. C'est toujours une bonne nouvelle. Et ça doit être une conviction ferme dans mon cœur. Et même si Paul ne s'est pas encore rendu à exposer de manière explicite c'est quoi cette bonne nouvelle, il n'a pas parlé encore de Jésus-Christ. C'est déjà clair dans son esprit. Je m'en viens vous annoncer une bonne nouvelle. Et ça devrait être mon attitude, mon point de départ lorsque je m'en vais vers les gens. J'arrive avec cette conviction forte que je m'en viens leur donner une bonne nouvelle. Je n'ai aucune raison d'être sur la défensive comme si ce n'était pas une bonne nouvelle que je m'en venais annoncer. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Il y a un Dieu qui existe, qui est beaucoup plus grand que tout ce que tu as pu imaginer dans ta vie comme Dieu. Tu sais, le Dieu que tu t'es forgé, là, que tu as imaginé, j'en ai un plus beau et plus grand encore à te présenter, plus vrai, plus puissant, plus historique. Regardons d'un peu plus près maintenant l'approche de Paul. Qu'est-ce que Paul va faire? Alors, comme je l'ai dit, plutôt que de commencer par l'histoire d'Israël, il commence par leur parler d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Alors, je le résumerai comme ça, annoncer un Dieu de liberté et un Dieu qui est bon. Une des leçons que je veux retenir de Paul ici, c'est qu'on peut parler avec assurance du Dieu qui laisse chacun choisir sa propre voie. Regardez bien ce qu'il dit au verset 16. « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. » C'est quand même... Ça passe aujourd'hui, tu sais. Non, Dieu est comme ça. Dieu te laisse libre de choisir ta voie. Et c'est vrai. C'est la plus stricte vérité. Nous n'annonçons pas un Dieu qui s'impose à nous. Et je ne m'en viens pas annoncer aux gens, « Regarde, tu es obligé, là. Dieu va te contraindre. » Non, Dieu va te laisser libre de choisir. Et Dieu l'a toujours fait. Et même une fois que j'ai annoncé l'Évangile, la personne a la liberté de choisir si elle veut croire dans ce Dieu-là. Et c'est ce Dieu-là que je m'en vais annoncer. C'est un Dieu qui désire être ton sauveur. C'est un Dieu qui désire que tu viennes à lui et qui s'est offert pour toi. Et je m'en vais annoncer un Dieu qui donne énormément de liberté. Maintenant, si j'arrête là, je ne suis pas en train de rendre comme il faut ce passage-là. Parce que voyez-vous, dans le contexte biblique et dans le contexte du passage ici, lorsque Paul dit, c'est vrai, à travers les âges, Dieu a laissé les hommes, les nations de la terre, suivre leur propre voie, leur propre chemin, ce qu'ils ont choisi. Si j'ai une bonne connaissance des Écritures, ça sonne plus comme une malédiction que comme une bénédiction. Laissez-moi l'illustrer ainsi. Je suis père de deux enfants. Maintenant, ce sont des adolescents. Mais admettons que mes enfants, à l'âge où ils étaient poupons, un an, je leur avais dit, « OK, tu ne veux pas obéir à papa? Tu ne veux pas faire ce que papa y veut? Je vais te laisser choisir et faire tout ce que tu veux. Suis ta propre voie. » Puis mon petit poupon est en train de ramper dans le gazon en avant, puis il se dirige vers la rue. Puis je dis, « Vas-y, mon grand, choisis ta voie. Fais tes choix. » Voyez-vous, c'est à peu près ça la proportion que j'ai. C'est à peu près ça la proportion que j'ai. Quand Dieu dit à un être humain, « Suis ta propre voie, choisis ton chemin, trace ta voie, vas-y. » C'est davantage une malédiction qu'une bénédiction. Parce qu'on parle, on parle pas d'un petit Dieu, là, le Dieu du tonnerre, ou le Dieu de la guerre, ou le Dieu de l'océan, ou le Dieu des verrues. On parle du Dieu qui a créé les cieux et la terre, vous comprenez? On parle de celui qui a conçu toute chose. Si Dieu est digne du mot Dieu, s'il existe ce Dieu-là, quand je dis Dieu, là, tel qu'on le conçoit en Occident, le mot Dieu, même pour les philosophes, c'est l'être infini. C'est l'être infiniment sage, c'est l'être infiniment puissant, c'est l'être qui discerne de manière parfaite, qui connaît ton destin, qui connaît l'éternité, qui connaît ton histoire. C'est celui qui vit à l'extérieur du temps et pour qui le temps se passe dans l'immédiat. Quand ce Dieu-là te dit « Choisis ta voie et fais ce que tu veux », c'est une malédiction. Il y a cette expression dans les Écritures qu'on trouve à quelques reprises, entre autres dans Romains 1, où Dieu dit, en fait c'est l'apôtre Paul ici qui dit, que Dieu les a livrés à eux-mêmes. Déjà formulé comme ça, ça sonne un peu plus « oh, ok ». Et ça porte comme idée que Dieu les a livrés à leur folie, à leur convoitise, à leur désir. Lorsque je m'en vais annoncer l'Évangile à quelqu'un qui n'a pas de culture biblique, je peux commencer en lui disant ceci. C'est vrai que Dieu te laisse libre de choisir. Et ce que je veux te partager, tu vas encore être libre de le refuser après. Et c'est vrai que tu n'as peut-être jamais entendu parler du Dieu dont je veux te parler. Tu n'as peut-être jamais vraiment entendu parler de l'Évangile. Tu as entendu des parodies d'Évangile à travers toutes sortes de scandales. Tu as entendu toutes sortes de choses, de religiosité. Laisse-moi te parler d'une personne, de Jésus-Christ. C'est de lui dont je veux te parler. Maintenant, c'est vrai qu'il ne s'est peut-être pas fait connaître à toi avant. Et tu suis ta propre voie. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour pour toi d'arrêter d'être ton propre guide. Toi qui es limité, dans quelques années, ta vie est terminée. T'es très limité. Tu es en train d'apprendre à gérer ton horaire, ton agenda, ton argent. Puis tu vas gérer ta destinée éternelle. Peut-être que c'est le temps aujourd'hui de venir suivre la voie de Dieu au lieu de suivre ta propre voie, ton propre chemin. Parce qu'il y a des conséquences à décider de suivre notre propre voie. Dieu nous laisse libres, mais un jour nous rendrons compte devant Dieu. Un jour, nous comparaîtrons devant Dieu. Et donc, lorsque je vais annoncer l'Évangile à des gens qui n'ont pas de culture biblique, je m'en vais m'adresser à des gens, je m'en vais parler avec des gens qui suivent leur propre voie, qui ont choisi leur propre voie. Et à notre époque, dans notre culture, ici au Québec, par définition, c'est ça, c'est le Dieu qu'on compose à partir d'un menu, n'est-ce pas? Je me compose un Dieu à partir d'un menu, et puis voici mon Dieu tel que je l'ai conçu, toi, tu as le tien. Que ton Dieu te bénisse, le mien va me bénir. Et donc, dans notre époque, les gens se sont définis leur Dieu, ont suivi leur propre voie, et Dieu donne cette liberté-là. Mais Dieu, dans sa grâce, se fait connaître lorsque nous annonçons l'Évangile, afin que les gens se détournent de leur propre voie et adoptent une posture plus humble face à l'univers. Au lieu de dire, bien voici, regarde, moi je suis né en 70, ça fait quand même un petit bout que je suis sur la planète, j'ai tout compris. Je peux tout expliquer, je sais d'où je viens, je sais où je m'en vais, je sais tout. C'est moi qui décide de toute chose. La semaine dernière, on a vu ensemble dans Acte 13 que pour venir à Dieu, pour venir à Christ, oui, ça demande d'adopter une posture un peu plus humble que ça. Ça demande d'adopter une posture où je dis, bien peut-être que je ne comprends pas tout. Peut-être que je ne sais pas tout, et peut-être que je peux ouvrir mon cœur à chercher. Et ça demande cette même posture, cette même attitude d'humilité pour dire, bien, OK, peut-être que j'ai suivi ma propre voie, mais peut-être que Dieu m'appelle à suivre sa voie maintenant. Et donc, c'est ce que je veux annoncer. Je veux annoncer un Dieu qui donne énormément de liberté, un Dieu qui laisse les hommes suivre leur voie si c'est ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, et depuis 2000 ans, il envoie des gens partout sur la terre pour leur annoncer la voie du Seigneur. Et ce Dieu-là que nous annonçons, bien, on doit en parler avec assurance parce qu'il est un Dieu bon. Et Paul ici s'en va justement chercher cette idée que tous les êtres humains sur la terre connaissent au moins Dieu pour sa bonté. C'est vraiment beau la manière qu'il le formule dans le passage. Regardez avec moi le verset 17. « Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. » Alors il dit, c'est vrai, vous ne le connaissez pas, les nations ne le connaissent pas. Il s'était révélé à Israël. Et pourtant, il a rendu témoignage sans cesse de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant le ciel, les pluies et les saisons fertiles, et j'aime tellement la fin, et en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Lorsque je m'en vais annoncer l'Évangile à quelqu'un qui n'a pas de culture biblique, je m'en vais lui parler du Dieu bon qui lui a donné à peu près tout ce qu'elle possède. Je m'en viens te parler du Dieu vivant qui t'a donné la vie. Je m'en viens te parler du Dieu vivant qui t'a fait naître au Canada plutôt que dans un pays où la guerre est en train de massacrer les gens. Les Canadiens devraient reconnaître la bonté de Dieu. Je m'en viens te parler du Dieu qui t'a donné une intelligence pour pouvoir avoir des rêves. Je m'en viens te parler du Dieu qui t'a donné la force et l'énergie pour avoir le travail que tu as là. Est-ce que tu crois vraiment que tu mérites tout cela? C'est toi qui as décidé dans quel pays tu allais naître. C'est toi qui as décidé quelle santé tu allais avoir. Je m'en viens te parler de ce Dieu qui a rempli ton cœur de joie. Parce que même pour la majorité des gens qui ne sont pas chrétiens, une grande partie des joies qu'ils vont expérimenter sont des joies très saines. La joie de l'amitié, la joie d'un bon repas, la satisfaction du travail accompli, la joie de faire du sport, de bouger. Et toutes ces joies-là, ce sont des grâces de Dieu. Je m'en vais leur parler de ce Dieu bon, qui les a bénis depuis si longtemps et qui a rempli leur cœur de joie. C'est de lui dont je m'en viens vous parler. Annoncez un Dieu de liberté et un Dieu bon. Et invitez-les, exhortez-les à la repentance des vaines croyances qu'ils ont. C'est vraiment ça le mouvement que Paul est en train de faire ici. Si vous regardez le verset 15, il dit... « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. » Voyez-vous, si vous êtes familier avec les Écritures, vous connaissez le terme repentance. Et pour nous, généralement, la repentance, c'est se détourner d'un péché. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ben, oui, la pornographie, c'est exclu pour un chrétien, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas la femme d'un, mais la femme d'un million, ce n'est pas la mienne. Donc, pour nous, c'est simple, la repentance. J'ai les standards de Dieu, puis je dois me repentir de m'être éloigné des standards de Dieu. Je vais dans la prière, puis je demande pardon à Dieu. La repentance est là dans ce texte-là aussi. C'est la repentance d'une croyance dans des choses vaines. La repentance, c'est se détourner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les inviter à la repentance, c'est-à-dire de renoncer aux croyances vaines et à toutes nos idoles. Et dans ce cas-là, ces gens-là avaient des idoles taillées à la main, littéralement. Et dans bien des pays, c'est encore le cas. Et puis, ça devient comme des images plus simples, plus fortes peut-être. Mais en même temps, clairement, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va nous dire que la débauche relève de l'idolâtrie. Et tous les péchés, fondamentalement, relèvent de l'idolâtrie. Il y a quelque chose dans ces affaires-là qui a pris la place de Dieu dans mon cœur. Maintenant, lorsque je vais annoncer l'Évangile à quelqu'un qui s'est conçu son propre Dieu ou souvent encore va simplement dire, « Regarde, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, c'est moi qui décide de tout. » Bien, cette idole-là s'appelle toi, c'est tout. Et c'est de ce Dieu-là que je veux t'inviter à te repentir, à te détourner. Prends la mesure de qui tu es. Tu n'es qu'un être humain qui a bien peu de réponses. Attends que la maladie te frappe, tu vas comprendre que tu as encore moins de réponses. Attends que les épreuves de la vie te frappent et tu vas comprendre que tu as encore moins de réponses. Attends que tes proches commencent à disparaître parce que tu vieillis et tu vas voir que les réponses s'effacent. Alors, je t'invite à renoncer, à cesser de croire en toi-même comme étant le centre de l'univers, le centre de ton univers. Parce que cette croyance-là est vaine. Elle ne te conduira pas dans l'éternité. Laisse-moi te parler du Dieu vivant qui t'a créé. Et on va regarder ce Dieu-là qui est tellement plus grand que toi. Alors, on les exhorte à la repentance, c'est-à-dire à renoncer aux croyances vaines et à toutes nos idoles. Et ça devrait être là lorsque je veux leur annoncer l'Évangile. Oui, c'est vrai, croire en Dieu, croire dans le Dieu qui a créé les cieux et la terre, va te demander de renoncer à toutes sortes de croyances que tu as. Parce que tu t'es échafaudé des croyances, tu t'es créé ton propre Dieu comme tu le voulais, qui est très domesticable, tu peux crier à lui quand ça ne va pas, tu peux faire le bien quand ça te tente, puis quand tu fais le mal, de toute façon, c'est bien parce qu'il te comprend. Ça, c'est le Dieu que tu t'es formé. Maintenant, moi, je veux te parler d'un Dieu qui est plus grand que ça, qui n'est pas à échelle humaine. C'est un Dieu qui est à échelle universelle. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Alors, ça va te demander de renoncer à ces vaines croyances que tu as. Pour certains, ça va être de renoncer à toutes sortes de fétichismes qu'ils vont avoir. Même dans des religions, des institutions religieuses plus officielles, comme l'Église catholique, où ils vont s'accrocher à ce culte, ces cultes qu'ils ont appris, c'est des réflexes qui sont plus émotifs qu'intelligibles. Parce qu'ils ont besoin de ça, c'est ça leur sécurité. Ils doivent renoncer à ces vaines croyances pour se tourner vers le Dieu vivant et le découvrir tel qu'il s'est révélé à nous dans ses Écritures, dans les Saintes Écritures. Je vais les exhorter à la repentance et justement à se tourner vers le Dieu vivant, à prendre une décision pour aller vers lui, pour le connaître, à consacrer du temps pour dire, non seulement je réalise que ce que j'ai cru était futile, mais je veux découvrir ce Dieu vivant-là et je vais le laisser se révéler à moi tel qu'il le veut dans sa parole. Ce n'est pas moi qui vais le construire, ce n'est pas moi qui vais le définir. Je vais aller vers les Saintes Écritures puis je vais le laisser se révéler à moi. Et c'est ça qu'on veut annoncer. C'est toute une bonne nouvelle qu'on annonce. Et assurez-vous de toujours être en train d'essayer de vous rendre à Jésus-Christ. Parce que voyez-vous, on a ce sentiment-là ici, dans le texte, que Paul ne s'est pas rendu au bout du sermon. On arrive au verset 17, « Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Et là, on a un commentaire de Luc ici. « À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Quand Paul va prêcher à Athènes, il se rend jusqu'au mot « résurrection ». Boum, ça s'arrête là. Mais on voit où est-ce qu'il s'en va. Lorsque je veux annoncer l'Évangile à des amis qui ne connaissent pas du tout le Seigneur et qui n'ont pas de culture biblique, je m'en vais leur annoncer une bonne nouvelle, vraiment une bonne nouvelle. Je dois être à l'écoute de leur culture, de leurs croyances, de leur vision du monde. C'est probable que je ne puisse pas commencer comme si j'étais en train de parler à un juif, par exemple. Mais je vais m'adapter à cette situation-là. Et si vraiment la personne n'a pas ces référents bibliques-là du tout, je vais commencer par lui parler. Je vais commencer par lui parler du Dieu qui lui accorde la liberté de faire des choix et qui l'a béni abondamment depuis toujours. Je vais lui parler de ce Dieu qui l'invite, qui veut se faire connaître à lui. Je vais lui parler de ce Dieu vivant qui l'a tellement béni. Je vais l'inviter à renoncer à ses croyances vaines pour pouvoir croire dans ce Dieu qui nous est révélé tellement plus grand que tout ce qu'on rencontre comme conception de Dieu. Et je veux me rendre jusqu'à Jésus-Christ. Parce que si je peux me rendre à la croix, je vais leur faire découvrir combien mon Dieu est grand. Il est grand parce qu'il s'est humilié. Il est grand parce qu'il est venu pour toi. Il est grand parce qu'il est venu mourir sur cette croix pour toi, afin de te libérer de cette voie vaine que tu avais décidé de suivre et te faire marcher dans ses voies. Et il l'a fait au prix de son sacrifice. Voilà combien mon Dieu est grand. Ce Dieu infini s'est fait homme pour mourir sur la croix pour tes péchés. Et il est ressuscité d'entre les morts. Et il veut entrer dans cette relation personnelle avec toi. Si tu veux renoncer à tes vaines croyances pour te tourner vers le Dieu vivant et le connaître dans la personne de Jésus-Christ, il va t'enseigner à marcher dans ses voies. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Si vous n'avez pas déjà fait ce choix-là, je vous encourage de tout mon cœur. Ça fait des années maintenant que je marche avec ce Dieu-là. Et il y a des témoignages ici, des centaines de témoignages de gens qui marchent avec ce Dieu merveilleux et qui ont connu ce Dieu qui n'est pas celui que j'aurais voulu imaginer, qui est celui qui s'est révélé à travers les Écritures et particulièrement à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Et pour vous, frères et sœurs, ouvrez la bouche. Vous avez une bonne nouvelle à annoncer. Je sais que ce n'est pas évident, parce que souvent on se demande par où on commence. Les gens ne croient pas dans tellement de choses ou croient tellement des choses différentes. Mais déjà ici, avec Paul, j'ai un chemin, je vois une approche où je peux aller vers ces gens. Je vois comment je peux, après ça, me rendre concrètement à l'Évangile de Jésus-Christ. Et si les gens ne sont pas intéressés, prenez pas ça comme une affaire personnelle. Secouez la poussière de vos souliers. Passez au prochain appel. Dieu va sauver. On va prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir pour cette merveilleuse parole. Seigneur, je te rends grâce pour Paul qui était un homme sage et rempli du Saint-Esprit et qui vraiment pour moi est un guide, Seigneur, dans notre culture où les choses ne sont pas toujours aussi simples que d'ouvrir l'Ancien Testament et commencer à dire « Voilà, je veux te parler du Dieu de tes pères. » Non, les choses sont plus complexes, Seigneur. Mais ton évangile est puissant. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit, Seigneur. Et j'ai cette ferme assurance que tu sauves aujourd'hui des gens de toutes les nations, de toutes les cultures, que le message ne change pas. C'est le même évangile qui sauve des hommes et des femmes par milliers, par millions à chaque année, Seigneur. Donne-nous cette assurance de prêcher Christ, Seigneur, avec sagesse et discernement comme Paul, avec confiance et avec assurance comme Paul. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.